19h, belle soirée à l'écoute d'Europe 1.
Ça rajoute un peu de stress parce qu'il fallait que je refasse le test devant l'entrée. C'est un peu contraignant, mais bon, on n'a pas le choix, c'est obligatoire.
Il est obligatoire, effectivement. Depuis ce matin, pour se rendre dans les rassemblements de plus de 1000 personnes, le pass sanitaire testé dès aujourd'hui à Roland-Garros.
Ce 9 juin marque aussi la réouverture des salles de sport, notamment. On prendra de la hauteur. Caroline Baudry a capté la joie des amateurs d'escalade.
Jean-François Copé, entendu en tant que témoin dans le procès Big Malion. Je suis un bouc émissaire, dit l'ancien patron de l'UMP.
La filière bois va mal. Les scieries françaises sont en péril, elles en appellent à l'État.
Et puis des cas de Covid dans les équipes d'Espagne et de Suède à quelques jours de l'Euro.
La météo à Nice a dit le beau temps s'installe.
Et ce n'est que le début, Julien, nous aurons un très beau jeudi, demain ça fait du bien. Attention toujours au fil des heures, des orages qui arrivent sur les reliefs Pyrénées, Alpes, Corse, tout le monde est concerné, je vous en dis plus à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et depuis aujourd'hui, il faut donc montrer patte blanche pour pouvoir participer à certains rassemblements.
Et les événements de 1000 personnes comme à Roland-Garros, où vous vous trouvez, Johanna Chabas, et où le dispositif est testé depuis ce matin avec succès.
Oui, les spectateurs entrent dans le stade sans difficulté, tout est assez fluide. Du personnel supplémentaire a été mobilisé spécifiquement pour guider le public dans les files d'attente. Et un des premiers à passer les portiques ce matin pour montrer son pass sanitaire était Olivier Véran, le ministre de la Santé.
C'était très simple. D'abord, il y a du personnel qui est formé. Ils ont un appareil numérique qui permet de lire un flashcode. Il y a mon nom, mon prénom, ma date de naissance et il y a marqué « validé » en vert. Les gens n'ont pas à savoir si c'est validé parce que j'ai été vacciné ou si c'est parce que j'ai réalisé un test qui était négatif. Tout ce qu'ils ont à savoir, c'est que c'est validé, donc que je peux rentrer. Donc, a priori, personne n'est contaminé dans l'enceinte de Roland-Garros.
Après le ministre de la Santé, c'est en ce moment même au tour de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, et de Roxana Maracineanu, ministre des Sports, de tester pour la première fois le pass sanitaire. Si jamais un spectateur n'a pas les bons documents, il est alors orienté vers un laboratoire proche pour effectuer un test antigénique. C'est ce qui est arrivé à Yanis.
Ça rajoute un peu de stress parce qu'il fallait que je refasse le test devant l'entrée. D'autant plus que bon, c'est pas confortable à faire, donc c'est un peu contraignant, mais bon, on n'a pas le choix, c'est obligatoire.
En tout cas, tous les spectateurs à qui j'ai parlé sont rassurés par ce pass sanitaire et puis surtout ravis qu'il permette à 13 000 personnes d'être présents dans le stade, le double de ces derniers jours. L'ambiance est donc très festive dans les gradins.
Et on l'a entendu effectivement tout à l'heure. Merci beaucoup Johanna Chabas en direct de Roland-Garros. Et promis, on va vous donner aussi bien sûr des nouvelles des matchs du jour, notamment de Raphaël Nadal qui s'est qualifié pour sa 14e demi-finale. Port d'Auteuil.
Cette étape du déconfinement donc, qui a commencé aujourd'hui, ce n'est pas seulement le pass sanitaire, ce sont aussi de nombreuses libertés retrouvées.
Comme le plaisir de retourner au restaurant en intérieur, de pouvoir rester dehors jusqu'à 23h, d'aller nager à la piscine, de faire du sport en salle, de l'escalade notamment. Les amateurs retrouvent leur passion après 7 mois de fermeture. Caroline Baudry s'est rendue dans une salle parisienne. Bonheur des retrouvailles.
Ça fait vraiment du bien de remettre le baudrier et de grimper accroché à une corde.
Chaussons jaunes aux pieds, baudrier bien ajusté. Hugo, étudiant, est venu sur sa pause déjeuner prendre de la hauteur, 11 mètres exactement, pour atteindre la dernière prise du mur d'escalade.
Super sensation. C'est super. Moi, l'escalade, c'est vraiment ma passion.
Passion retrouvée après des mois de privation, comme pour Tom et Maxence, qui reprennent leur souffle assis sur un tapis.
On a un peu mal aux doigts, un peu mal aux pieds, mais ouais, ça me manquait aussi. Ça fait partie du sport. Et
peu de gens peuvent comprendre, mais quand on adore ça, c'est un plaisir. On va essayer de rester jusqu'à temps qu'on ait plus de force, en fait, je pense.
Leur temps passé sur place est enregistré grâce au QR code qu'ils ont scanné à l'entrée. C'est l'une des mesures sanitaires ici, explique Pascal, le directeur de la salle.
Si jamais quelqu'un s'avère positif, on peut savoir que tant de personnes ont été potentiellement à son contact. Et sinon, après, on est dans un protocole plutôt classique, à savoir on est obligé de se désinfecter les mains avant et après avoir grimpé, etc., etc.
La jauge est aujourd'hui de 50%, ce qui n'empêche pas, confie-t-il dans un sourire, d'entendre de nouveau les mousquetons chanter.
Le reportage, effectivement, de Caroline Baudry avec les mousquetons qui chantent. L'auteur de la gifle contre Emmanuel Macron est toujours en garde à vue ce soir. L'homme qui a filmé la scène également. Les policiers ont découvert des armes au domicile de ce dernier, ainsi qu'un exemplaire de Mein Kampf.
Quel champion pour la droite en 2022 pour désigner leur futur candidat? Les Républicains décident de s'appuyer sur 2 sondages géants.
C'est tout à fait inédit avec une grande question. Quel nom mettre sur la liste de ces sondages? En plus de ceux qui se sont déjà portés candidats, faut-il mettre ceux de candidats potentiels, pas encore déclarés? En tout cas, si et seulement si aucun champion n'émerge à l'issue de ces sondages, eh bien un processus de sélection sera alors lancé, sans doute sous la forme d'une primaire.
Oui, notez que demain matin, Sonia Mabrouk recevra à 18h15 sur Europe 1.
À 8h15. Oui.
À
c'est moi qui vous ai mis à 18h.
À 8h15, bien sûr, 18h15, c'est ici même dans ce studio. Renaud Muselier, candidat LR en PACA. C'est l'un des temps forts du procès Big Malion, l'audition aujourd'hui en tant que témoin de Jean-François Copé.
L'ancien patron de l'UMP qui a toujours assuré qu'il n'avait rien su hein, de la fraude ayant permis à Nicolas Sarkozy d'exploser le plafond des frais de sa campagne de 2012. Chloé Triomphe, vous avez suivi cette journée d'audience à la barre cet après-midi. Jean-François Copé a donc redit à quel point il ne savait rien en se présentant comme le bouc émissaire de cette affaire.
Exactement, et dans la bouche de Jean-François Copé, de plus en plus prolixe à la barre au fil des questions, c'est le même message qui se dégage, répété à satiété. Non, je n'ai pas participé de près ou de loin à l'organisation de la campagne. Ce n'était pas mon sujet, ni ma compétence. Et l'actuel maire de Meaux de clore le débat, c'est en lisant les révélations de Libération en 2014 que j'ai compris en une seconde ce qu'on m'avait caché pendant 2 ans. Jean-François Copé en veut d'ailleurs pour preuve qu'il a été mis hors de cause par la justice et qu'il ne vient ici dans ce procès qu'en qualité de simple témoin. C'est là, ensuite, que l'homme politique joue une autre partition, celle de la victime du bouc émissaire. Cette affaire a été la plus douloureuse de ma vie professionnelle, explique-t-il. J'ai fait le choix de démissionner de mon poste de président de l'UMP. Jean-François Copé parle de la haine qu'il a vue dans les yeux de certains dans le parti, de cet effet de meute. J'étais le bouc émissaire idéal, j'incarnais la relève dont certains ne voulaient pas à droite. Mais inlassablement, les questions le ramènent à l'enceinte judiciaire. Le procureur ironise. Ici, on essaye de comprendre comment tout cela a été possible. Je ne sais pas si on y arrivera.
Chloé Triomphe qui suit pour Europe 1 ce procès Big Malion.
Europe 1, Julien Bugier.
Restez avec nous dans quelques secondes, la suite de votre journal. La France va-t-elle bientôt manquer de bois?
Et puis les joueurs espagnols et suédois espèrent, eux, ne pas manquer l'euro après la détection de cas de Covid au sein des deux équipes.
A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite du journal. Les scieries françaises en danger. Les industriels s'inquiètent effectivement de la flambée des exportations des bois français vers la Chine.
Oui, on vous en avait parlé la semaine dernière sur Europe 1. C'est un sujet important car ça nous impacte tous potentiellement. Le bois, on en a besoin dans la vie courante pour beaucoup de choses. Les professionnels interpellent donc l'État français. C'est l'avenir de la filière qui est en jeu, disent-ils. Une pétition vient même d'être lancée. Écoutez, Nicolas Douzin, il est le délégué général de la Fédération nationale du bois.
Aujourd'hui, on fait face à une vague très importante d'achats de la Chine auprès des forêts françaises et enchaîne un tiers de la ressource part chaque mois en Chine. Et donc, nous avons lancé un cri d'alerte auprès des entreprises. Et en 24 heures, plus de 3000 ont déjà signé notre pétition, ce qui est bien plus que ce que nous pensions. C'est à l'État de prendre des dispositions pour réguler tout ça. C'est un système qui s'est généralisé en 6 mois. Le président de la République, lors de sa campagne présidentielle, avait indiqué qu'il s'agissait de la plus grande aberration économique et écologique. Et je crois que c'est maintenant à lui de prendre les bonnes décisions. La France est un grand pays forestier, peut le rester, doit développer son industrie et faire barrage à ses exportations sauvages.
Le délégué général de la Fédération nationale du bois, joint pour Europe 1 par Olivier Samain, la filière bois qui sera reçue demain par le ministre de l'Agriculture pour essayer de trouver une solution.
On suivra également dans les prochains jours le premier déplacement de Joe Biden en Europe.
Au Royaume-Uni d'abord, où le président américain va s'entretenir avec Boris Johnson et participer à un sommet du G7, puis à des sommets de l'OTAN et de l'Union européenne à Bruxelles. Sommet avec le président russe est également prévu.
Allez, on prend des nouvelles tout de suite de Roland Garros.
Europe 1, radio officielle de Roland Garros.
Et de Rafael Nadal, qui, ça y est, a battu l'Argentin Schwarzman. Vous l'avez suivi en direct sur Europe 1. Ce soir, il s'est qualifié pour sa 14e demi-finale, Porte d'Auteuil. Il retrouvera Novak Djokovic ou l'Italien Matteo Berrettini, qui s'affrontent ce soir. Chez les dames, Barbara Krejcikova et Maria Sakkari disputeront, elles, leur première demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem. Elles ont respectivement battu l'Américaine Coco Gauff et la tenante du titre, Iga Swiatek. Le tennis féminin, décidément chamboulé cette année, puisqu'aucune des demi-finalistes actuelles n'est allée aussi loin jusqu'à présent en Grand Chelem.
Pour jouer et tenter de gagner vos places pour la finale de Roland-Garros, envoyez dès maintenant tennis au 739-21. 75 centimes plus coût d'un SMS. 2 SMS pour jouer.
Et puis en foot maintenant, l'Espagne et la Suède voient leur préparation à l'Euro totalement chamboulée avant leur affrontement de lundi.
Car 2 joueurs de chaque équipe ont été dépistés positifs au Covid. Du coup, branle-bas de combat, hein, Julien Froment.
Exactement, à commencer par la sélection espagnole qui a pris une mesure d'urgence. Tous les joueurs seront vaccinés, annonce faite par le ministère de la Santé espagnol. Le staff technique a également constitué une deuxième bulle de 17 joueurs, 6 réservistes appelés en début de semaine, plus 11 joueurs issus de la sélection espoir de l'Espagne. Le but pallier d'éventuels nouveaux cas de Covid dans les rangs ibériques. Le sélectionneur Luis Enrique a jusqu'au premier match de l'Euro lundi prochain à Séville pour effectuer des changements dans son groupe de 26 joueurs s'il y a bien sûr des cas de Covid constatés par l'UEFA. Quant à la Suède, vous l'avez dit, qui compte également deux cas, eh bien elle va renforcer ses mesures anti-Covid, tests antigéniques quotidiens, réunions en intérieur en plus petits groupes et dans des espaces plus grands. Pour rappel, le match sera maintenu si les deux équipes disposent de 13 joueurs, y compris d'un gardien. Sinon, l'UEFA peut reprogrammer la rencontre dans les 48 heures. Si le report est impossible, c'est alors l'équipe jugée responsable et bien qui sera sanctionnée d'une défaite sur tapis vert 3-0.
Merci pour ces explications.
Sur les cas de Covid, non, jamais.
Non, mais sur le match.
Non plus.
Bon, très bien, comme d'habitude.
On rappelle que le coup d'envoi de 7 euros, que l'on suivra bien sûr sur Europe 1, c'est vendredi. Et puis la commission d'appel de l'UEFA annonce qu'elle suspend jusqu'à nouvel ordre la procédure disciplinaire engagée contre le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin, les trois derniers clubs mutins qui refusent toujours de renier l'éphémère projet de Super League privée.
Merci ma chère Isabelle. On vous retrouve demain évidemment à partir de 18h. La météo, Anissa Dadi, même si le beau temps domine, les orages restent, attention, menaçants demain.
Oui, ils sont toujours là ces orages. C'est vrai que sur le flanc est, il n'arrive pas, on n'arrive pas encore à se débarrasser de ces orages qui concerneront les reliefs demain. Donc le Jura, les Vosges, les Alpes, les Pyrénées, la Corse, demain en montagne, ça risque de tonner assez fort. Sur le reste du pays, après la dissipation des quelques nuages sur la Bretagne et peut-être quelques petites gouttes, on a des averses qui, du côté de Rennes par exemple, prévues demain après-midi. Partout ailleurs, ça reste quand même une journée au sec, une journée agréable sous le soleil, quelques passages nuageux. Mais vraiment, c'est agréable. Dans le sud, le Mistral et la Tramontane faiblissent doucement. On aura des rafales à 40 km/h demain. Côté température, c'est stationnaire. 10 degrés à Charleville-Mézières, 16 à Paris, 22 à Perpignan demain matin. Et dans l'après-midi, nous aurons 23 degrés à Caen et Lorient, 25 au Puy-en-Velay, 28 à Paris et Cherbourg, 29 pour Bordeaux, 30 à Marseille, 31 degrés à Nîmes et 33 la maximale pour demain du côté de Perpignan.
Merci ma chère Anissa.
À demain.
Europe 1, Julien Bugier.
19h13, restez avec nous dans un instant. Le débat du Club des Idées sur nos amis les insectes qui s'invitent maintenant dans nos assiettes. À tout de suite.